Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle. Bonjour Dismas Kitenge.
Bonjour Guy Maté, bonjour Madame Colette Bettman, bonjour mon collègue débatteur, bonjour également à tous les auditeurs de la radio Okapi.
En ligne depuis Genève en Suisse, Willy Kalenga, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Bonjour Willy Kalenga. Bonjour Willy Kalenga.
Bonjour Serami Akisangani.
Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Espoir. Bonjour Madame Colette Bachmann.
Ah, bonjour chers confrères, et bonjour Monsieur Kitenge, Monsieur Kalengaï, et bonjour chers auditeurs.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dismas Kitenge, le président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH. En ligne depuis Genève en Suisse, Willy Kalenga, il est journaliste et le directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Les Soirs. Au menu de cette émission, la politique du républicain Donald Trump sur la crise dans l'Est de la RDC sera-t-elle différente de celle du démocrate Joe Biden? Le gouvernement congolais a fourni beaucoup d'efforts dans l'amélioration de la situation des droits humains selon le rapport national des droits de l'homme défendu par la délégation de la RDC qui participe à la 47e session du groupe de travail de l'examen périodique à Genève en Suisse. Et enfin, le budget 2025 estimé à environ 18 milliards de dollars américains sera-t-il à même de répondre aux défis sociaux de la RDC? Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet des travaux des États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa depuis le 6 novembre. Pour le deuxième jour de ces travaux, le débat a porté sur la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature et l'indépendance du magistrat du parquet. Parlant du droit constitutionnel comparé, le professeur constitutionnaliste et député national André Mbata fait quelques recommandations de réformes pour cet organe. Devant les magistrats et auxiliaires de la justice ainsi que des justiciables réunis dans la salle des congrès du centre financier à Kinshasa, André Mbata propose que les chefs de l'État deviennent les présidents de cet organe étant donné que la justice est une affaire de tous et ne doit pas être laissée au seul magistrat. De son côté, le député national Lambert Mende exposant sur l'évolution du système judiciaire congolais pense que le Conseil supérieur de la magistrature doit cesser de se considérer comme un syndicat alors qu'il est une importante institution de la République. Mende propose de sortir de son corporatisme pour l'intérêt général et non des seuls magistrats. Dismas Kitenge proposait que le chef de l'État devienne le président du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-ce pas encourager l'interférence de la politique sur la justice?
Ça dépend de la proposition, de la position qu'on va défendre. Mais d'après le principe du droit, d'après les principes de l'indépendance de la justice, en réalité, le président de la République ne devrait d'abord pas faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Il existe des pays tels que la France où le président est membre du Conseil supérieur de la magistrature, mais sans en être le principal décideur. Les décideurs sont les magistrats, les autres. Mais il y a des politiques telles que le président de la République, en tant que magistrat suprême, peut aussi suivre ce qui se passe. Mais en réalité, cela n'enlève en rien l'indépendance de la justice. Si le président de la République faisait partie du Conseil supérieur de la magistrature, comme en France, le président n'a pas le droit de regard. Ce n'est pas celui qui va prendre des décisions. Ce n'est pas celui qui peut orienter les décisions de justice qui sont prises sur le jour par les magistrats, mais lui n'aura que le regard de la société pour essayer de donner des grandes orientations, mais il n'en sera pas le décideur au quotidien. Et ça, c'est aussi un peu le garde-fou pour dire que la question de la justice, selon le modèle français du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas que le président qui en fait partie, mais il y a aussi les autres corps, les représentants, par exemple, de barreaux. Les représentants de tous les barreaux doivent être membres aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Les représentants des professions juridiques telles que les enseignants peuvent être aussi membres du Conseil. Les enseignants de droit peuvent être aussi membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a aussi même un représentant de la société civile qui peut être là. Mais ils sont là pour regarder comment la justice est rendue, comment les questions aussi des sanctions contre le magistrat, d'organisation de la justice peuvent être administrées. Mais c'est pas eux qui sont agréés de gérer, mais c'est le regard de toute la société sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. C'est comme ça que dans cette idéologie française, on accepte que certains membres en dehors des magistrats, mais qui exercent des professions juridiques ou autres, politiques au plus haut niveau, peuvent être membres. Mais en réalité, comme je viens le dire et comme tout le monde le sait, la question de l'indépendance de la justice ne dépend pas que des seuls magistrats, mais c'est la question qui relève de toute la société, qu'il faut faire un diagnostic clair. Puisque aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans ce secteur, nous savons que c'est la crise de l'homme congolais. L'homme congolais qui se caractérise aujourd'hui par des comportements qui laissent à désirer.
Merci.
Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Merci Dismas Kitenge. Willy Kalengai, si la présence du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature comme président peut inquiéter une certaine opinion qui pense que cela peut ôter à la justice son indépendance, y a-t-il moyen de contourner cette difficulté en proposant, pas peut-être le chef de l'État comme président de cet organe, mais plutôt qu'il puisse avoir un représentant au sein de cet organe?
En tout cas, c'est une question de fond, mais qui relève beaucoup plus de la mutation qu'il faut opérer au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est quoi finalement le Conseil supérieur de la magistrature? Si on part de l'idée que c'est un syndicat des magistrats, alors je ne vois pas comment ce Conseil supérieur de la magistrature peut s'ouvrir, même au président de la République. Mais si on en fait une institution clé, qui soit le reflet de notre propre devise. Parce que vous savez, la devise nationale, c'est justice, paix et travail. Et vous allez remarquer effectivement que ce sont ces trois concepts qui sont les moins partagés dans la République. Nous n'avons pas de justice forte, nous n'avons pas de paix et nous n'avons pas de travail. Et pourtant, le pays s'est donné lui-même l'objectif d'atteindre ces objectifs. Alors en ce qui concerne la justice est une valeur intrinsèque. La justice, elle est rendue au nom du chef de l'État. La justice, elle est administrée par un appareil judiciaire. Les magistrats sont au cœur de ce travail. Mais alors, si nous devons aujourd'hui leur apporter le soutien moral de la République, il faudrait que l'on accepte la mutation du Conseil de la magistrature vers d'autres, comme l'a dit M. Kitenge, vers d'autres yeux. Il faut qu'il y ait d'autres intelligences entre Parce que la justice, ce n'est pas seulement la procédure, c'est aussi les valeurs qui sont soutenues. C'est aussi la capacité d'utiliser toutes les intelligences disponibles dans les corps sociaux, dans les différentes strates sociales. Aujourd'hui, les débats ne peuvent pas être focalisés sur les chefs de l'État. Qu'ils soient dedans ou qu'ils ne soient pas dedans, c'est en son nom que l'on rend justice. C'est pourquoi j'ai dit effectivement, si l'idée c'est de prendre en charge la maladie actuelle de notre justice, afin qu'elle soit prise en compte même par les chefs de l'État, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. D'autant plus que ce sera juste pour la bonne cause. Mais si, comme notre constitution consacre la séparation de pouvoirs, le pouvoir judiciaire n'est pas le pouvoir exécutif. Il faudra donc que nous puissions garantir cette mutation en conservant la séparation de pouvoirs. Comment faire pour que même quand le chef va être là, c'est pour ça que vous parlez d'un représentant, il va juste pourquoi ? Parce que tous les rapports lui sont donnés. Moi, je n'ai pas d'avis personnel, n'étant pas spécialiste du droit constitutionnel, mais je suggère simplement que ceux qui sont en train de réfléchir aujourd'hui puissent tenir compte de ces deux paradigmes, notamment comment élargir la base morale qui sous-entend toutes les actions de la justice, mais aussi comment garantir l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif, donc quand même les chefs de l'État et les numéros 1.
Merci, Madame Colette Batman. Au-delà de ces débats au sujet du Conseil supérieur de la magistrature, et s'il faut revenir sur les travaux des États généraux qui se tiennent ici à Kinshasa depuis le 6 novembre dernier, et qui visent, n'est-ce pas, à réformer de manière radicale la justice dans ces pays, est-il possible de réussir une réforme de la justice dans un contexte où la politique tend à exercer son influence dans tous les domaines, à votre avis?
Mais je crois que ça va être difficile parce que au Congo tout est politique. Mais en Belgique, par exemple, dans le Conseil de la justice, il y a beaucoup de professions sont représentées. Par exemple, il y a une représentation des journalistes dans le Conseil supérieur de la justice. Donc ils peuvent en faire entendre leur voix pour défendre la liberté de la presse, mais aussi d'autres sujets de société. Donc je n'ai pas de problème à l'idée d'élargir ce Conseil supérieur de la justice à condition de préserver absolument son indépendance.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Affaire Titikwala de Simaro Massia et revient tout de suite après.
Bisambwe, tata yela nga linda nana, kimposa ya koyemba o na kolela la vie mpasi ya mokili. Bisambwe makasi, tata yela nga linda nana, kimposa nga na yemba o na koyemba mpasi ya mokili. Bisambwe luntadila tata simanga iso kene na mokili ya seto kute oto kozua tako na paradiso e. Sambela kae natango ya mpo kwa liboso ya kolala sambela panza komba. Sambela kae ata liboso ya kobenda mwankoko sambela kae yave. Namo kiliyansé, zamba kaba bachan sa kaba dilomyo. Namo kiliyansé, egaïsé ike leveo. Namo kiliyansé, eko mama bongo. Egaïsého, ezaïsé la zando pe na tango yaliwa, kole la kateo. Nabo lingo yansé, mi bali bali ni se basi ya mobulu, oya konyo kola ye. Nyea kolinga ye miyo, eko mama bongo, basi balini mabala ya monyo koli, oya kosalisa ye. bien à papa matin des oba na bolingo yanse eh comme ma bongo bon soyo kolinga eh bien à kolinga mon soso mama ye 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 Odina sisiye, ne basi kana no kole la longo la loba tona lita ma e. Longo la loba tona lita ma kiko e. Longo la mpinzo ni na miso amisiye. Longo la loba tona lita ma omko na kole la la vi. Basi ya mokile. Ngaina zala kana zua, na teke la basi ya mabala, na zala kana olendo, na tike la baibaswa kitoko, kitoko edo kopambae, kitoko nde mabeleo, na zala kana oputa, na tike la batayo, na bame mijeo, mamae, na teke la baisuver, na bame kanitie, lokuta nangai, na kine la batekmite, ya batelevizyo, na bafrigo, na kaba lokuta nanga, na baestro, na banganga nkikie, Mama ye ye, Shamwe, Sara Lokolangai Namo Kiriyanse, Eloko Moko Toko Pesa Toli Ata Ozani Nyonso Kasiko Zanga Mbeto Teo Soma Mbeto Yakitoko Moko Yoko Kufandeko Eto Kipeto Yakitikwala Ebebe Na Yoko Yopansoni Kinshasa Makambo Namatanga Somo Nakande Makambo Basusu Bakolela Basusu Bakotongo Mbeto Yamowe Kiyotuzo Kiyoye Banakambo Kiringo Makambo Mama Mokilingo makambo mamae
C'était Affaire Kitikwala du poète Lutumba Simaro Massia avec la voix de Carlito Lassa. Nous sommes là en 1985. On revient à l'actualité de cette semaine. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche a entraîné de nombreuses réactions sur le continent africain. Le président congolais Félix Tshisekedi a félicité Donald Trump pour son élection. Celui-ci s'est exprimé dans un message publié sur le compte officiel X de la présidence de la République. Pour le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku, la RDC qui organise le forum AGOA l'année prochaine à Kinshasa travaillera avec l'administration Trump pour que son pays et en particulier les entreprises congolaises profitent pleinement de l'AGOA qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans payer des droits de douane. Madame Colette Bachmann, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous avez souhaité analyser cette actualité en vous posant la question de savoir si la politique du républicain Donald Trump sur la crise dans l'Est de la RDC sera différente de celle du démocrate Joe Biden. On vous écoute.
Mais je crois que pendant longtemps, la politique américaine à l'égard de l'Afrique a été ce qu'on appelle bipartisane, c'est-à-dire qu'elle était la même que l'on soit démocrate ou républicain. Je crois que cependant que le phénomène de Donald Trump, la personnalité de Donald Trump est différente. Il faut surtout analyser son point de vue qui est l'Amérique d'abord, qu'est-ce qui est important pour l'Amérique. Alors, il peut y avoir des choses positives pour la RDC, c'est le besoin énorme qu'a l'Amérique de matières premières. Elon Musk est le bras droit de Trump. Elon Musk dépend pour son industrie, tous ses industries informatiques, pour ses voitures électriques, etc., dépend évidemment de matières premières qui se trouvent en grande partie en Afrique et surtout au Congo. Mais Elon Musk a aussi déjà passé des accords avec des firmes chinoises. Donc, il achète les matières premières aux Chinois qui les transforment. Il n'empêche que à cause de ses intérêts importants sur le plan économique, la RDC n'est pas n'importe quel pays aux yeux des hommes d'affaires qui entourent Donald Trump, et on peut imaginer qu'il sera assez attentif aux évolutions. Par contre, ce qui est négatif, c'est évidemment ses positions très rigides sur le phénomène d'émigration, mais ça affecte moins la RDC que d'autres pays où l'immigration vers les États-Unis est plus grande. Et ça peut aussi affecter évidemment l'aide internationale. C'est tout de même les États-Unis qui sont le premier pays au monde pourvoyeur d'aide via les agences humanitaires, via les agences de l'ONU. Et là, on peut craindre que Trump sabre dans ses budgets, ce qui va affecter évidemment les secteurs humanitaires en RDC. Alors quant à ce qui intéresse évidemment en premier lieu la RDC, c'est la guerre à l'Est. Je crois que là, les démocrates, je vous excuse de le dire, mais les démocrates ont laissé un mauvais souvenir au Congo parce que personne n'a oublié qu'ils étaient à l'origine de la déstabilisation et finalement l'éviction de Mobutu, le changement de régime, le soutien apporté à la FDL. Ok, il y avait une lutte nationaliste, mais il y avait aussi le soutien apporté à l'ingérence du Rwanda et de l'Ouganda, ce qui n'a pas cessé depuis 25 ans. Alors ça, c'est ce qu'on reproche aux démocrates. Et on peut imaginer que Trump fera les choses autrement en disant laissons-les avec une vision peut-être plus saine des choses et pas se reposer sur des pays voisins pour imposer des guerres ou des l'exploitation des ressources ou la sous-traitance des ressources naturelles aux pays voisins. Donc ça n'est pas nécessairement mauvais pour la RDC, sauf sur le plan des migrations, de l'humanitaire, et il y a aussi l'année prochaine, il y a le renouvellement de l'acte AGOA sur les accords de commerce et d'échanges commerciaux. Là, je crois qu'il ne faut pas attendre de Trump autre chose que le pragmatisme. Il fera ce qui est dans l'intérêt de l'Amérique. Il ne fera pas de cadeau à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, mais je me demande si les démocrates ont jamais fait des cadeaux, eux non plus. Donc, ce sera l'Amérique d'abord, aujourd'hui comme hier.
Madame Colette Batman, il est dit que la guerre dans l'Est, la RDC, et c'est même des notoriétés publiques, c'est une guerre économique. À partir du moment où il est dit qu'au-delà du Rwanda, il y a des multinationales et que Donald Trump, selon certains observateurs, c'est aussi cet esprit d'homme d'affaires, cet esprit mercantiliste, vous pensez qu'il pourrait être disposé à agir dans le sens de gêner les intérêts de ces multinationales?
Je crois qu'il va faire ses comptes. Il va faire ses comptes. Jusqu'à présent, on a fait croire aux Américains qu'il était plus facile, plus rentable d'arracher les matières premières au Congo de la manière que l'on connaît, hein, par le pillage, par le trafic illicite, et puis de les revendre par des plateformes qui sont dans les pays voisins. Mais si on présente d'autres solutions aux États-Unis et à l'administration Trump, par exemple, qu'on peut exploiter des ressources très importantes comme les ressources au et les ressources du Katanga, le cobalt, d'une façon correcte, efficiente et tout. Et il ne faut pas oublier non plus que les Américains accordent un grand rôle maintenant à l'Angola, essayent de ranimer le corridor de Lobito pour que les ressources du Katanga, du Kasaï puissent partir via la côte atlantique et arriver directement aux États-Unis. Donc le président Biden devait d'ailleurs aller en Angola avant la fin de son mandat, il ne l'a pas fait, mais la question reste sur la table. Donc si on présente aux Américains une solution rentable, rapide, sécurisée pour exporter les minerais dont ils ont besoin, ils pourraient très bien se dire qu'au fond, cette guerre à l'Est, avec des proxys, des pays intermédiaires, que cette guerre est inutile et qu'il vaut mieux y mettre fin. Donc on est devant une situation de pragmatisme.
Merci, Dismas Kitenge. Vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Là où l'administration démocrate n'a pas pu mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC, vous pensez que les républicains pourraient relever ce défi?
Oui et non. Hein. Oui, les républicains peuvent relever les défis à condition que les Congolais présentent bien les problèmes de l'Est, fassent prévaloir leurs intérêts et disent aux Américains ce que les Américains peuvent gagner. Puisque, à mon sens, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains et maintenant les républicains Donald Trump, ce qui compte pour les Américains, c'est d'abord leurs intérêts. C'est pas les intérêts des Congolais, c'est pas non plus les intérêts des Rwandais, c'est leurs intérêts. Et les Américains, les multinationales américaines, les hommes d'affaires américains sont déjà présents dans la région autour de cette crise et ils sont en train d'exploiter dans un sens comme dans un autre. Ce qui importe, que ce soit aujourd'hui avec Trump ou comme hier c'était avec Joe Biden, c'est la manière dont les Congolais présentent leurs intérêts. Ils les défendent, il les fasse prévaloir. C'est ça qui compte. Si nous avons un bon agenda, si nous avons un bon argumentaire vis-à-vis de Donald Trump pour faire valoriser nos ressources, nos revendications et dire que nous avons besoin de la fin de la guerre et nous avons besoin que nos richesses nous profitent et profitent aussi aux Américains dans le cadre de la coopération, du commerce. Et moi, je pense que Donald Trump va en suivre. Puisque moi, je ne vais pas dormir sur mes lauriers pour penser que Donald Trump ferait de la RDC en Afrique une de ses priorités. C'est non. La RDC, comme l'Afrique, n'intéresse pas trop les Américains maintenant. Les Américains ont beaucoup d'intérêt vers l'Asie, vers d'autres centres de commerce international, tout ça. Mais ce qui est vrai, ils ont besoin de nos ressources. Mais nos ressources, là, ils les prennent déjà par toutes les voies. C'est-à-dire, par la guerre qui se passe, ceux qui profitent plus de cette exploitation, même si ça passe par le Rwanda qui nous fait des soucis, mais ça finit par atterrir dans le monde occidental et aux États-Unis en particulier. Ça, les Américains le savent. Donc, les Congolais ne doivent pas se leurrer par le fait que Donald Trump passe et que Donald Trump va faire. Mais c'est nous, les acteurs. C'est nous qui devons dire à Donald Trump que voilà, il faut arranger la situation de cette manière, puisque si vous privilégiez la RDC pour faire la paix et pour que nos richesses, nous allons vous vendre ces richesses-là d'une façon légale. Et ça va profiter à tous les peuples. Si nous ne sommes pas à mesure de nous défendre nous-mêmes sur le terrain et de faire prévaloir, je vous dis, ce sera la même chanson, ce sera la même déception. Puisque l'attitude attentiste qui veut que veulent le développer les Congolais vis-à-vis de Donald Trump et de tous les Américains, c'est une attitude qui date de très longtemps. C'est-à-dire quand il y a un changement quelque part dans le monde, les Congolais croient que les retombées ce serait chez eux. Non, ce serait d'abord pour ceux qui se battent pour eux-mêmes. Donald Trump dit First America, d'abord c'est les États-Unis, d'abord les intérêts américains. Nous aussi, nous devons battre pour faire valoir nos intérêts et pour montrer que ce sont nos richesses et ça doit nous profiter et il faut que les autres tiennent compte de nous. Si nous nous effaçons pour laisser à Donald Trump et à son administration de faire tout à notre place, il ne le fera pas. Ça ne changera rien. Ne rêvons pas, soyons réalistes que nous devons continuer à nous battre et que le combat continue.
Merci, Willy Kalengai. Vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. À votre avis, quels pourraient être les atouts que pourrait avoir le président Trump pour régler la crise dans l'Est de la RDC?
D'abord, sa propre vision de la vie politique, il ne l'a pas cachée. Pour lui, les Américains doivent effectivement s'occuper d'abord des Américains, ce qui est vrai, mais en même temps, ça réduit d'une certaine manière l'influence et l'ingérence américaine dans beaucoup de crises. Il va demander certainement au Congrès et au Sénat de retirer un certain nombre de présences américaines dans plusieurs crises. C'est d'abord cela, ça veut dire que la main de fer va diminuer sur les prestataires locaux. Ça c'est la première des choses. Mais la deuxième, elle est un peu plus forte que ça. Nonobstant l'intérêt que l'Amérique a pour l'Américain, ou les Américains pour leur Amérique, le Congo, notre pays, joue un rôle important dans les différentes transitions actuelles. Si lui, il veut jouer un rôle important dans la transition énergétique, dans la transition numérique, dans les climats, s'il veut jouer un rôle, parce qu'à l'époque, il avait saboté un tout petit ça, le Congo devra faire partie de sa stratégie. Parce que c'est une stratégie mondiale. Et les Américains n'ont pas attendu que lui soit président pour commencer déjà à s'intéresser au Congo. Vous savez, la guerre à l'Est, elle est une guerre économique. Et une des choses qui empêche la paix de revenir, c'est la présence militaire dans les sites miniers. Donc l'artisanat militaire, parce que des groupes armés sont en train de faire exploiter les mines congolaises et sont en train de faire une fausse guerre. Alors, depuis le mois passé, je crois que le président Tshisekedi était encore aux États-Unis, je crois, il y a quelques mois, deux mois, je ne sais plus. Les Américains avaient déjà anticipé sur la question de l'exploitation artisanale. D'ailleurs, vous vous rappelez que le ministère du Travail aux États-Unis avait sanctionné un peu, avait indexé, pas sanctionné, indexé le cobalt congolais, même si le Congo a réagi avec fermeté, mais c'était pour indiquer le chemin qu'ils veulent poursuivre avec le Congolais. Donc les Américains ont prévu d'investir dans le Katanga et dans le Nord-Kivu en construisant par, évidemment, des entreprises privées, des usines de raffinage des matières, notamment le cobalt, le cuivre, et ils sont en train de penser aussi aux 3T. Ça veut dire que là où il y a des usines, là où on va faire la valeur ajoutée, eh bien, la paix va être là. Il y aura travail, il y aura paix, et certainement il y aura justice, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est au Congo de se vendre. Le Congo doit se vendre pour dire, vous n'avez pas besoin de venir ici violemment pour obtenir les avantages d'une coopération économique. Nous pouvons nous organiser, nous sommes en train de faire des réformes, et ces réformes vont rencontrer les intérêts du Congo et les intérêts des États-Unis. Donc c'est au Congo d'anticiper sur la diplomatie, d'aller dans la maison de Trump, de siéger, de déjeuner, de s'asseoir, pour lui dire, vous allez agir sur le monde parce que vous êtes la première puissance du monde, mais le Congo a une offre à vous faire. Cette offre doit être formulée, s'il n'est pas encore, le plus vite possible. Parce que les Américains, depuis Bill Clinton, fonctionnent avec l'Afrique par des sous-traitants. Alors, il faut donc éviter que Trump aussi trouve un autre sous-traitant dans la sous-région parce qu'il n'aura pas trouvé un interlocuteur valable, digne et surtout responsable par rapport aux questions congolaises. Le Congo est très important aujourd'hui dans les transitions mondiales, que le monde ne va pas nous attendre. C'est à nous de nous organiser pour monter en puissance, surtout dans la formulation des stratégies de coopération, surtout dans la gestion que nous mettons par rapport aux matières premières. Surtout que le pragmatisme de Donald Trump va triompher sur cet idéalisme des démocrates qui voulaient un monde meilleur dans lequel nous avions un travail d'esclave.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le vendredi dernier, le 1er novembre, l'artiste, musicien, chanteur et compositeur Sam Mangwana a été honoré à Luanda, en Angola, d'une médaille d'or des mérites des arts, sciences et lettres par l'ambassadeur de la RDC en Angola. C'était pour honorer ses 60 ans de carrière et sa reconnaissance comme l'un des grands promoteurs de la rumba congolaise, ce genre musical reconnu en décembre 2021 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses chansons intitulée Kabibi et on revient juste après.
¡Vamos!
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur les travaux des états généraux de la justice qui se tiennent ici à Kinshasa depuis le 6 novembre dernier. Nous avons également analysé l'impact de l'élection de Donald Trump sur la crise dans l'Est de la RDC. Participe à cette émission, Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. En ligne depuis Genève, en Suisse, Willy Kalenga, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Le gouvernement congolais a fourni beaucoup d'efforts dans l'amélioration de la situation des droits humains. C'est ce qui est contenu dans les rapports nationaux des droits de l'homme défendu mardi 5 novembre par la délégation de la RDC qui participe à la 47e session du groupe de travail de l'examen périodique à Genève en Suisse. Le ministre congolais de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a aussi souligné que les violences dans l'Est de la RDC affectent principalement les femmes et les enfants, des millions d'entre eux étant aujourd'hui déplacés et vivant dans des conditions précaires. Les choses auraient été tellement plus simples si les troupes rwandaises avaient quitté le territoire de la République démocratique du Congo, a-t-il martelé, tout en appelant la communauté internationale à condamner les violations en cours. Willy Kalenga, vous intervenez depuis Genève en Suisse, où vous participez, n'est-ce pas, à ces assises, et vous avez souhaité nous parler de ces assises. On vous écoute.
Évidemment, depuis quelques jours, une forte délégation des dignitaires, en fait, des ministres, membres du gouvernement, et aussi membres de l'Assemblée nationale, voire même de la présidence, ont accompagné la ministre des Droits humains pour pouvoir faire auditer les rapports nationaux, parce que ces rapports, il est produit chaque 4 ans, on fait un examen, chaque pays est appelé par les autres membres de la communauté internationale pour pouvoir examiner son rapport. Donc nous avons assisté d'abord à une audition et des questions ont été posées par 120 pays qui participaient à cette session. Ça a été un moment important parce que tous les pays que nous avons entendu parler ici ont effectivement expliqué en remarquant les progrès que la RDC a fait durant ces 4 dernières années. Et parmi ces progrès sur lesquels la délégation congolaise est revenue, on a cité le progrès sur la loi sur la violence, les violences faites aux femmes, surtout la création du Fonds Rêve pour gérer les victimes de toutes ces violences. On a cité effectivement l'accès gratuit à l'enseignement de base. On a cité aussi les débuts de la loi sur la couverture universelle de la santé. Donc il y a effectivement beaucoup de progrès qui ont été d'une certaine manière salués par les différents intervenants, mais ils sont aussi revenus sur ce qu'ils estiment être quand même des points que le Congo doit encore améliorer, et notamment ici, ils sont tous revenus sur le moratoire en disant que la levée du moratoire sur la peine de mort donnait un mauvais signal parce que la tendance générale, c'est d'aller vers l'abolition de la peine de mort. Donc le Congo, qui a levé son moratoire il n'y a pas longtemps, avait quand même reçu de la part de tous les États des conseils pour pouvoir revoir cela. Il y a eu effectivement d'autres questions qui ont été soulevées, mais qui ont fait quand même l'objet d'une certaine capacité de maîtrise par la délégation congolaise qui avait répondu en tout cas à toutes les questions. Il est vrai que les droits de l'homme, la perception même que l'on a ici, ce n'est pas simplement des droits civils et politiques, parce que l'idée que l'on faisait, qu'on véhicule généralement, c'est que c'est les droits, par exemple, de l'opposition, les droits des journalistes, qui sont effectivement des droits de l'homme, mais le socle, dans un pays aussi pauvre que le Congo, le socle des droits économiques, des droits collectifs et solidaires, des droits des minorités, des groupes vulnérables, ce socle doit être préservé, et c'est ça que la communauté internationale ici à Genève a salué dans les chefs de la délégation congolaise.
Justement, oui, Kangai.
Pardon, oui.
Justement, que répondez-vous à ces ONG de défense des droits de l'homme, à ces acteurs politiques qui dénoncent les arrestations arbitraires, les musulmans, n'est-ce pas, de la presse? Il y a même des opposants qui sont en train de quitter les pays parce que, selon eux, les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent la précarité dans laquelle vivent la plupart des Congolais parce que les richesses du pays sont concentrées, n'est-ce pas, entre les mains des acteurs qui évoluent dans les institutions politiques?
Bon, fondamentalement, moi je ne suis pas habilité à répondre, hein, mais simplement je constate avec vous, effectivement, que dans un pays pauvre, hein, comme dit bien la Bible, hein, et je la cite exceptionnellement, il faut un minimum de richesses pour pratiquer la vertu. La justice sociale, les efforts qui doivent être menés, je crois que ce que l'on a remarqué, c'est la dynamique d'appropriation par les Congolais des moyens, des substances, des moyens, des ressources naturelles. Donc, le Congo, aujourd'hui, est dans une situation très, très, très complexe parce que, d'un côté, il est agressé, donc les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés pendant la guerre. D'autre côté, il y a la gouvernance qui peut être ponctuée par la corruption, dont la mauvaise gouvernance, qui empêche effectivement la majorité d'accéder aux ressources disponibles. Je ne peux que regretter, moi, en titre individuel, que certains responsables continuent à user de leur pouvoir, non seulement pour s'approprier les maigres ressources disponibles, mais aussi pour violer les droits constitutionnels d'autres Congolais. Parce que le droit de s'exprimer, le droit à l'opposition, le droit à avoir une opinion contraire, ces droits sont garantis par notre propre constitution. N'oubliez pas, ce n'est qu'une déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous en avons fait un élément de notre constitution. C'est plus contraignant que la déclaration. C'est de la constitution. Je suis donc d'accord avec vous. Je constate simplement que parfois on regarde ce qui est en train d'avancer. Qu'est-ce qui marche? Évidemment, quand on a identifié ce qui marche, on ne doit pas oublier ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, vous venez de le dire, mais c'est moi j'ai salué ici la dynamique, l'effort d'aller de l'avant, d'accepter les critiques, d'aller de l'avant et d'accepter surtout les témoignages du monde entier et l'aide de tous les pays. Parce que vous savez, certains pays ont proposé beaucoup d'appui, Colombie, Venezuela, tous ont dit qu'ils étaient prêts à accompagner le Congo pour s'approprier les fondamentaux des droits de l'homme. Ce qui est encore important, je ne voudrais peut-être pas m'opposer la parole, c'est que la délégation congolaise est allée plus loin. Donc, au-delà du fait simplement qu'aujourd'hui les rapports vont être lus, mais il y a eu un déploiement avec l'ensemble des fonctionnaires, tous les grands fonctionnaires d'origine congolaise qui travaillent dans les organisations internationales ici à Genève. C'est des cerveaux, c'est des hommes intelligents, ils ont une longue expérience, mais le pays n'a pas encore bénéficié de tout cet apport-là. Il n'y avait pas de cadre pour pouvoir, en tout cas, capter les conseils. Et quand on a assisté à cette réunion-là entre les gouvernements congolais et les hauts cadres, on a compris que le pays a pris beaucoup de retard pour avoir négligé une ressource humaine aussi importante que ses propres ressortissants qui sont dans ces institutions qui jugent.
Merci, Madame Colette Markman. Comment vous réagissez à ces rapports sur l'évolution des droits humains en RDC?
Mais moi, je vois ça depuis la Belgique. Je sais qu'il y a un sujet qui mobilise tout de même, qui inquiète l'opinion et les décideurs politiques, c'est la levée du moratoire sur la peine de mort. Ça, du point de vue de l'Europe, de la Belgique, c'est quelque chose d'inacceptable et ça préoccupe beaucoup l'opinion. C'est surtout cela que l'on retient. On sait bien qu'il y a des engagements, des avancées, etc. Mais là, ça nous paraît un recul important et terriblement inquiétant.
Merci, Dismas Kitenge. C'est quoi votre point de vue, vous, en tant que défenseur des droits humains, par rapport à cette problématique des droits humains en RDC?
Oui, la problématique des droits humains en RDC qui a été abordée tout dernièrement le 5 novembre dernier à Genève dans le cadre de l'examen périodique a soulevé beaucoup de questions. La première, c'est que le gouvernement a mobilisé plus de moyens pour donner une visibilité politique à cette action, pour montrer comme si la RDC était à la barre et qu'elle est devant la communauté internationale et devait se défendre. L'examen périodique n'a pas cet objectif. L'examen périodique universel, c'est un examen de la situation des droits humains dans un pays par ses pairs. C'est plutôt un dialogue politique, un dialogue technique entre la communauté internationale représentée par les États membres des Nations Unies et les pays, la RDC. Mais la manière dont les choses se sont passées, c'était comme si la RDC était à la barre et que la RDC devait se défendre et que à l'issue de cet examen, la RDC a gagné. La RDC n'a pas gagné. La RDC a juste présenté la situation qui se passe chez lui avec des éléments positifs, avec des éléments négatifs. Par exemple, dans ce qu'on constate comme avancée importante, ce n'est que dans le domaine législatif où nous avons fait quelques lois. Et même toutes ces lois-là, il n'y en a pas toutes qui sont mises en œuvre. Il y en a qui posent des problèmes. Parmi les lois qui posent problème, nous avons reconnu par exemple la loi sur la protection des défenseurs des droits humains, qui constitue une avancée, mais en même temps qui constitue un problème. Puisqu'il a été dit dans cette loi que les organisations qui n'ont pas la qualité officielle en tant qu'organisation, mais peuvent prétendre à l'exercice de leurs droits que si elles sont reconnues par la Commission nationale des droits de l'homme. Et ça, c'est incompatible avec les standards internationaux. C'est-à-dire, il y a des organisations qu'on appelle des organisations de fait, qui sont reconnues dans tous les droits internationaux. Donc, alors que chez nous, cette loi pose des problèmes. C'est-à-dire, c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui doit accorder les statuts de défenseur à certaines organisations, à certains défenseurs de droits humains. Nous avons aussi la loi sur le numérique qui pose des problèmes à ce qui concerne la propagation des fausses, de faux bruits, des fausses rumeurs. Et là aussi, il y a un problème. Nous avons dénoté, à côté de ces avancées d'ordre législatif qui restent aussi problématiques, hein, que l'espace civique et la question de la protection des défenseurs de droits humains au sens général, au sens global, qui inclut les hommes politiques et les opposants politiques, qui inclut les journalistes, qui inclut toutes sortes de gens dont l'opinion est importante, mais aujourd'hui qui est bâti en record en RDC, il n'y a plus d'avancée de ce domaine-là. Nous sommes en train de basculer vers la dictature, qui dérange un tout petit peu, puisque en fait, toutes les opinions critiques, toutes les voix dissidentes sont malmenées. Nous avons aujourd'hui le rôle de l'ANR, je n'ai rien avec l'Agence nationale des renseignements, mais qui aujourd'hui nous inquiète un peu. Et tout ce que le président avait fait comme promesse dans ce domaine, de fermer tous les cachots, les maisons de détention de l'ANR, ça n'a jamais été suivi d'effet.
Hein,
l'ANR est devenue une puissance importante qui traque les opposants. Donc voilà. Et il y a eu des recommandations, beaucoup de recommandations que la République démocratique du Congo a reçues. Non seulement dans le domaine de la peine de mort, qui est un recul, mais aussi dans d'autres domaines. Vous avez parlé, notre collègue Willy Kalenga a parlé de Fonarev. Bien, c'est une loi, bonne loi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas résumer la question de la justice transitionnelle seulement à la déréparation. Nous avons aussi besoin de poursuites judiciaires contre toutes ces personnes qui ont commis des crimes chez nous, qui ne sont pas que des étrangers,
merci,
mais qui sont des Congolais, qui sont des institutions. Mais le gouvernement ne devrait pas présenter que tout ce qui est du mal n'était commis que dans la partie occupée. Même dans la partie non occupée, contrôlée par le gouvernement, il y a beaucoup de violations des droits humains. Au point que ça nous inquiète aujourd'hui. Puisque, avec le président Fatih, comme nous on aime bien l'appeler au Congo, on pensait qu'on s'approcherait vite vers la démocratie. Mais aujourd'hui, avec cette question de révision des changements constitutionnels, mais c'est aussi une préoccupation importante en matière des droits humains qui nous inquiète.
Merci.
On a l'impression qu'on recule en matière des droits humains plutôt qu'on avance. Voilà les défis.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Liberian Girl avec Michael Jackson et on se retrouve juste après.
Nakupenda pia, nakutaka pia, kupenda we.
C'était Liberian Girl de Michael Jackson, une façon pour nous de rendre hommage à Quincy Johnson, le producteur de Michael Jackson qui vient de nous quitter depuis le 3 novembre à l'âge de 91 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dismas Kitengele, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. En ligne depuis Genève, en Suisse, Willy Kalengaï, le journaliste et le directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Et en ligne aussi depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Le projet de loi des finances pour l'année 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminwa lors de la plénière de vendredi 31 octobre a été jugé recevable par les députés nationaux. Ces budgets pour l'exercice 2025 s'élèvent à 49,846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice précédent. Dans ces budgets, on note une augmentation des crédits alloués aux investissements et des fonds destinés à des secteurs tels que la sécurité, l'agriculture, pêche, l'élevage, mais aussi le développement rural. Et lors du débat général qui a suivi la présentation de ces projets de finances pour l'année 2025, bon nombre de députés nationaux ont exprimé leurs préoccupations sur la viabilité de ces projets et les recettes projetées ainsi qu'à la politique salariale du gouvernement. Dismas Kitenge, vous avez souhaité nous parler de cette actualité en vous demandant si le budget 2025, estimé à environ 18 milliards de dollars américains, sera à même, n'est-ce pas, de répondre aux défis sociaux de la RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup. Si j'ai choisi ce thème, ce sujet-là, c'est puisque c'est un sujet d'actualité. Le budget est un élément de base dans la gestion d'un pays. C'est le cadre général de gestion qui montre les sources de recettes, qui montre aussi les points de dépenses où on peut engager. Et dans notre histoire budgétaire en RDC, c'est la première fois que nous avons un budget de 18 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme. C'est énorme puisque les régimes passés de Kabila avaient des 3-4 milliards de dollars et les pays étaient gouvernés. Et aujourd'hui, on a 10 milliards, donc on a des raisons d'avoir tous les espoirs. Tous les espoirs que la situation de la population va s'améliorer sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la sécurité. La question importante, c'est qu'on trouve d'abord ces moyens-là, les recettes. Est-ce que les recettes que nous avons dans le pays, nos recettes principales sont basées sur les mines? C'est les mines qui apportent plus d'argent et nous savons que ces mines apportent réellement plus d'argent. Mais le problème, c'est que est-ce que le gouvernement sera d'abord à mesure de canaliser ces recettes-là pour que les recettes ne puissent pas s'évader, qu'on ne connaisse pas par les phénomènes de détournement, par les phénomènes de la corruption, une évasion fiscale importante, et qu'on connaisse aussi des dépenses fantaisistes qui peuvent être faites. Mais qu'on mobilise cet argent-là, et le pays est à mesure de le mobiliser, puisque nous voyons que les mines apportent plus, et il y a aussi d'autres recettes qui doivent être mobilisées par la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale de Douanes et Assises, la Direction Générale de Recettes Domaniales, Administratives et Judiciaires, donc la DGRAD. Il y a d'autres sources aussi au niveau des provinces qui peuvent apporter cet argent-là. Nous pouvons penser que réellement le gouvernement pourrait réussir à mobiliser, si pas la totalité, mais au moins les trois quarts de ces recettes. Mais l'inquiétude, c'est l'affectation de ces recettes-là. Une fois mobilisées, on va les affecter où? Le peuple congolais aujourd'hui s'attend que cet argent serve à payer les militaires correctement, pour que les militaires congolais soient motivés pour finir la guerre à l'Est, pour remporter la victoire dans cette guerre, puisque le gros problème, c'est la motivation des militaires d'abord, et ensuite les problèmes des armements, la sécurité publique avec la police, tout ça, et le social des fonctionnaires de l'État au sens général. Donc, les fonctionnaires de l'État doivent être mieux payés pour être à mesure aussi de contribuer à la recette. Mais or, ces niveaux-là, de l'adéquation entre les recettes et les dépenses, nous avons de gros soucis. puisqu'on a l'habitude, et c'est ce qu'on a vu dans notre pays, que la plupart de nos gouvernements consacrent d'abord le plus de budget dans le fonctionnement des institutions politiques. Nous voyons tout ce que la présidence de la République prend, coûte par an, et il y a même des dépassements de plusieurs pourcentages, de 100% au niveau de la présidence, de centaines de pourcents au niveau de deux chambres du Parlement, au niveau du gouvernement, il y a des dépassements. Donc, de sorte que le gros du budget est d'abord dépensé pour les institutions, donc pour eux-mêmes, les politiciens, si je peux dire, ou les gouvernants,
merci,
par rapport aux gouvernés qui restent dans la misère.
Merci.
Alors ça, c'est une inquiétude, puisque nous voulons qu'il y ait des bons paramètres de gestion, nous voulons qu'il y ait des indicateurs également de suivi de ce budget-là, pour que la population, une fois que ce budget est adopté, nous puissions être en mesure de le suivre. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce stade.
Merci, madame Colette.
Nous avons ce gros souci-là, que les sociales soient privilégiées.
Merci, merci, madame Colette Mottmann, de Bruxelles, d'où vous intervenez. Quel est le regard que vous avez par rapport à cette question du budget 2025 estimé à environ 18 milliards de dollars américains?
Oui, je pense qu'en Belgique, quand on voit ça depuis la Belgique, on se dit que le chiffre est intéressant, surtout que le budget a augmenté pour encore monter beaucoup plus, mais c'est surtout sa ventilation qui inquiète. Et quand je lis dans la presse que le fonctionnement des institutions, le paiement des élus à tous les niveaux, national, provincial, etc., consommerait, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais c'est celui que j'ai entendu citer, consommerait 80% du budget national et que le reste doit se partager avec la population, avec les secteurs sociaux, etc. Là, je trouve que ça ne va pas, que c'est totalement choquant. Sinon, ça, le Congo ne va jamais progresser s'il n'y a pas une meilleure répartition des richesses. Peut-être que ce chiffre est trop élevé, 80%, mais même si c'était 70, ce sera encore trop. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un effort de vigilance qui doit être mené.
Merci, M. Willy Kalenga. Nous allons finir cette émission avec vous. On est habitué dans ce pays, en RDC, à avoir des budgets qui accordent une part importante aux institutions politiques, ce qui est souvent, n'est-ce pas, dénoncé par beaucoup d'experts. Et vous pensez qu'avec ce projet de budget 2025 qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, on peut régler cette préoccupation?
Ça sera très difficile. Je ne sais pas comment ça va se faire. D'abord, la première inquiétude, c'est au niveau, là, dit tout à l'heure M. Kitenge, de la mobilisation même de ces 18 milliards, si c'est sur les ressources naturelles, notamment les produits miniers que nous comptons, parce que ça participe à 90% au budget national. Alors, il faut que nous puissions revoir très vite nos calculs à la baisse, parce que nous sommes en train d'assister à une chute drastique du prix du cobalt. Nous partons de 85 000 la tonne, on est aujourd'hui à 25 000 la tonne. Ça, c'est d'abord un premier élément, mais avec aussi le fait que ce même cobalt est frappé d'une forme de malédiction par rapport aux plus grands pays comme les États-Unis, ça va diminuer sensiblement la mobilisation de ces ressources. Mais on peut aussi se poser la question de savoir comment le budget a connu un accroissement de 21,6%. Par rapport à celui de 2024. Ma deuxième inquiétude, c'est quand je regarde les chiffres. L'année passée, quand Madame la Première Ministre a pris ses fonctions, elle était au milieu de l'année 2024, et dans cette année, elle est venue donc proposer un budget additif, donc une forme de correctif budgétaire. Correctif budgétaire et vous savez, le budget lui-même était à 40 000 milliards, hein, le budget qui était en cours. Mais quand il est venu avec l'ensemble des dépenses, il a présenté un autre budget un peu correctif, il était à 44 000 milliards. Donc, il y avait à peu près 4 milliards d'ajout hein, sur ce budget-là. Alors, quand nous regardons au mois d'octobre, parce que nous sommes au mois de novembre maintenant, mais au mois d'octobre, de janvier à octobre, le gouvernement, en tout cas, n'avait mobilisé que 20 000 milliards. Si les chiffres que j'ai sont exacts, ça signifie qu'en réalité, il ne nous restait que octobre, novembre, décembre, pour mobiliser le reste de 24 000 milliards. ce qui est impossible dans l'état actuel des choses. Donc déjà, le budget 2024 va poser un problème pour que l'on puisse en faire une réduction de comptes qui soit réaliste. Nous allons peut-être avoir une exécution budgétaire qui sera autour de 50-53%. C'est déjà donc un vrai problème. Ça signifie qu'il y a beaucoup de lignes budgétaires de 2024 qui vont être projetées vers 2025. Et 2025 va commencer avec cette crise-là dont j'ai parlé, la crise des matières premières. Alors, je suis optimiste par nature. Je me dis peut-être que, comme nous dépendons beaucoup du marché mondial, peut-être que les Chinois vont avoir besoin du cuivre, du cobalt, et qu'ils vont découvrir quelque chose qui va faire que le cuivre et le cobalt vont monter encore des prix pour que nous puissions atteindre ne fût-ce que la moitié de ce budget. La deuxième chose, c'est que c'est l'affectation de ces ressources. C'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'obésité de l'État. Ça signifie que l'État lui-même a un train de vie qui absorbe l'essentiel des ressources disponibles. Il en reste très très peu pour pouvoir faire fonctionner les investissements et les autres secteurs. Il faut donc une réforme majeure. Et cette réforme majeure, je la vois beaucoup plus dans la mise en place de ce qu'on a appelé les budgets programmes. Les budgets programmes allaient réduire sensiblement l'impact du gouvernement sur la masse des affectations. On allait remettre à l'administration financière, à l'administration des finances, la gestion du budget et non au cabinet politique. Mais ce contrat programme, qui devait en réalité commencer depuis 3-4 ans, est toujours reporté. Chaque fois, le gouvernement, parce que ça réduit la même mise du ministre des Finances sur les ressources de l'État. Ce sont les fonctionnaires qui vont étudier chaque dossier, qui vont suivre l'orthodoxie, qui seront contrôlés, bien sûr. Mais à partir du moment où nous avons des dépassements, même pas des dépassements, nous avons ce qu'on appelle chez nous les dépenses en urgence, aussi importantes, parce que la loi n'autorise pas qu'on dépasse 10%, mais déjà l'année passée, nous avions dépassé 20%. Aujourd'hui, on parle même de presque de 50%, ce qui est grave. Donc, une des choses qui doit être faite le plus rapidement possible, c'est la mise en place, ce qu'on a appelé le budget programme. C'est ce budget qui va dégraisser l'État et va lui rendre son efficacité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans leur maison, je crois que c'est autour de 40% des agents de l'État qui ne travaillent pas, qui attendent simplement qu'on leur dise qu'on a mis l'argent dans leur compte pour qu'ils aillent prendre. Cet État rentier, cet État-là qui s'occupe des gens comme c'était un État social, il est à l'origine de l'inefficacité.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Colette Brachman, Monsieur Dismas Kitenge, Monsieur Willy Kalengai. Merci aussi à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec C'est trop tard, Djenga, d'Alain Makaba dans Wenge Musica et on se retrouve le samedi prochain.
Mama bimana nga e tonana presence na yo. événements.